Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux.
Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions, et vous écoutez Le Déclic. Dans ce nouvel épisode, nous avons invité Thomas Hercouet. Si vous êtes un habitué des podcasts, ce nom ne devrait pas vous être inconnu. Parce que Thomas Hercouet, c'est un créateur de contenu multitâche qui a, entre autres, créé la nuit originale, cette nuit de Radio Live sur YouTube, pendant laquelle de nombreuses célébrités plus ou moins importantes de la scène web partagent leurs histoires, leurs anecdotes et leurs tables pour proposer 16 heures de contenu audio inédit. Mais ça n'est pas la seule flèche à son arc, parce que Thomas, c'est avant tout un homme de défi, que ce soit pour le perso ou pour le pro. Il a toujours 1000 projets en tête, parce que s'il s'arrête de faire de nouvelles choses, il perd l'essence même de son être. Enfin, Thomas, c'est aussi un ami, un fief de bienveillance et d'humour qui a toujours répondu présent pour nous aider dans nos projets, y compris pour 18h17 Productions. Aujourd'hui, Thomas revient avec nous sur son parcours et ce déclic qui a marqué un tournant dans sa vie professionnelle, mais aussi personnelle.
Salut Thomas.
Comment ça va?
Ça va super et toi?
Bah régal, trop bien. J'ai un petit chat sur les genoux là, c'est trop bien. Je suis au chaud.
Au chaud, mais en plus on est déconfiné, c'est l'avantage.
Ouais. Et j'ai mis un pull alors qu'il fait 40 degrés dehors.
C'est parce qu'on est déconfiné, on ne sait plus comment
ça. C'est ça.
Alors Thomas, tu le sais bien, un déclic ça se fait toujours dans un contexte particulier.
Mm-hmm.
Donc on va faire un petit retour en arrière avant de parler de ton déclic. On va faire commencer par une question assez classique. Où est-ce que tu as grandi et dans quel contexte?
J'ai grandi entre la Bretagne et la Normandie. J'étais en Bretagne jusqu'à mes 6 ans, après j'étais en Normandie jusqu'à mes 12 ans et je suis revenu en Bretagne derrière. Et dans quel contexte? Dans une maison.
Ouais.
Voilà, avec ma famille.
Un contexte familial sympa.
Ouais, pas trop à plaindre, mais bourrin à la Bretagne quoi. Mais bon, j'ai vu 1000 fois pire, donc je me dis avec le recul que j'ai pas été mal loti.
Et l'audiovisuel, le web, la création de contenu, enfin... Pas forcément le web, puisque c'est apparu un peu plus tard. Mais est-ce que ça a toujours été en toi, en fait, le fait de créer quelque chose, de transmettre par de l'enregistrement ou par des vidéos
J'aime bien que tu parles de transmettre. Moi, je pense pas que ce soit de la transmission. Je pense que c'est chercher de l'attention.
Ouais.
Vraiment. Parce que oui, j'écrivais... Enfin, je faisais plein de conneries quand j'étais petit. Écrire des faux bouquins, faire des faux jeux, des trucs comme ça. Juste pour les montrer à mes parents et dire « Regarde, j'ai fait ça ». Tu vois, vraiment le concept du collier de nouilles. Mais poussé un peu à l'extrême. Et mes parents ont eu la gentillesse de faire à chaque fois « C'est bien, mon chéri. C'est très bien. Bravo. Tu devrais continuer. C'est vraiment bien. » Je pense que pas du tout. Mais pour le coup, ça a motivé. Et ça a fait qu'à chaque fois, je fais « Oh, c'est rigolo. » C'est satisfaisant, en fait.
Mm.
En fait, c'est satisfaisant de pondre quelque chose.
Ouais.
Comme après un gros kebab.
Est-ce que ça... Mais du coup, ça a toujours été... C'est une passion de longue date, toi, le fait de... Enfin, pas le fait d'être un attention seeker, évidemment.
Aussi,
hein,
vraiment, aussi, en vrai.
Non, mais ça... Enfin, personnellement, moi, j'ai toujours été aussi dans l'écriture. Genre, j'écrivais des histoires dans mon cahier Digimon, tu vois, par exemple, quand j'étais petite.
Bah, très belle rêve.
Mais, mais je faisais aussi des vidéos quand j'étais gamine, et je pense qu'il y avait aussi un côté attention seeker, bien sûr. Mais effectivement, mais toi, ça, de plus loin que tu t'en souviennes, ça a toujours été en toi, le fait de faire ces choses-là.
Je pense que ça a commencé... Et je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Ça a commencé le jour où mes parents ont offert le magnétophone Fisher-Price sur lequel tu peux enregistrer des cassettes audio. Est-ce que tu peux lire des cassettes audio? Nickel.
Ouais.
Mais il y avait un petit micro sur le côté, micro blanc et rouge. Et tu pouvais enregistrer des trucs. Et alors là, ça a été la fête du slop. C'est-à-dire que vraiment, je n'ai pas arrêté d'enregistrer des conneries. Mes parents ont gardé quelques cassettes, mais j'en supprimais pas mal. Et donc du coup, techniquement, il doit y avoir des cassettes de moi qui circulent encore chez mes parents, en train de faire des émissions de radio à 3, 4, 5, 6 ans, tu vois.
C'est génial, on pourra les passer dans Fréquence Star ou dans Les Enfants de la télé.
Il y a un risque que ça soit possible, ouais.
Et qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit?
Je voulais étudier les extraterrestres. C'était bien, j'aimais bien Star Wars.
Moi, ça me faisait peur, j'ai eu une période où j'étais flippée de ouf des extraterrestres. Genre, je scrutais le ciel en ayant peur, quand je devais avoir 6 ou 7 ans. Enfin, c'est pas mon déclic du tout, mais je suis en train de parler.
Bah, moi, en vrai, ça venait d'une BD, j'ai oublié le nom. Et ça venait d'une BD qui était dans, je crois, Okapi, où il y avait un mec qui était une sorte de Futurama avant Futurama.
Ouais.
Où il y avait un mec qui était figé dans le temps ou qui était envoyé dans l'espace, je sais plus. Et il y avait une exobiologiste. Alors, j'avais 10 ans. Je crois que non, j'avais ouais, non, un peu moins, j'avais genre 8 9 ans, un truc comme ça. Et est-ce que ça m'empêchait de comprendre le concept de meuf fraîche? Non. En tant que mec, on t'a pris envie de ce truc-là. Et il y avait une exobiologiste qui était particulièrement canon dans la BD, mais qui en plus était badass de ouf, quoi. Celle qui s'y connaissait de ouf sur les extraterrestres, elle était en mode vraiment mais méga charismatique et tout. Et je me rappelle, ce personnage m'a trop marqué, j'ai fait putain, trop bien étudier les extraterrestres. Je veux trop faire ça. Et après, tu te rends compte que je pense que c'est chiant comme métier.
Et puis, je crois que le concours d'entrée à la NASA est un peu compliqué.
C'est très restreint.
Ouais,
c'est... Très restreint.
Puis surtout après,
tu cherches des bactéries après, donc t'es en mode genre, ouais, non, super, des cellules, j'adore les cellules.
Mais du coup, rien à voir avec la radio.
Non, l'audiovisuel. Rien à voir. Non, non, du tout.
Mais, et quand t'étais plus jeune, c'est-à-dire collège, lycée, est-ce que ça a changé? Tu voulais toujours être exobiologiste?
Ouais, non, c'est resté un moment. Après, ouais. Je crois que je savais pas trop. J'aimais bien le concept de jouer aux jeux vidéo de manière générale.
Ouais.
Et à rien foutre. Et écrire. Et faire semblant de créer des jeux vidéo. Et, mais c'était pas en mode, est-ce que ce sera mon métier? Je sais pas. Je pense que comme tout le monde, j'ai voulu être journaliste.
Ouais.
Tu vois? Et après, j'étais vraiment journaliste. Et après, j'ai fait, non. J'ai fait de la presse quotidienne régionale. C'est-à-dire que pendant 2 ans,
à quel âge?
16-17, je travaillais au Télégramme de Brest, qui est la presse locale de Bretagne. Et comme Ouest-France, c'est l'autre Ouest-France.
D'accord.
Et du coup, bah, c'était trop bien, j'aimais bien aller à droite à gauche, voir la fête à la saucisse, faire les résultats du club de tennis et tout. Mais je m'en suis rendu compte que c'était pas le truc le plus fun, ça me convenait pas de ouf.
Mais tu t'écrivais du coup déjà bien à 16-17 ans pour...
déjà ça faisait le taf.
Ouais.
Mais... ça faisait le taf, tu vois, je faisais pas de faute d'orthographe. Après, quand t'es journaliste de PQR, on ne demande pas d'avoir un style.
Oui.
On demande d'être efficace dans ce que tu dis.
Ouais.
Et ça, je savais pas trop faire, mais...
Ouais, c'est pas... Moi, j'ai du mal encore aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup.
Ça fait ton charme.
Ah, écoute. Mais du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude?
Alors, j'ai commencé par une prépa littéraire pendant 2 ans. Après, j'étais en géographie, en L3
d'accord.
De géographie. Après, j'étais en M1 de sociologie urbaine.
Oui, du coup, beaucoup de choses différentes.
Bah, géographie, sociologie urbaine, c'est 2 ans de géographie, quoi, globalement.
D'accord, ouais.
Et plus orienté sociaux. Ensuite, je suis parti dans une école de commerce pour faire un master spécialisé en politique territoriale.
D'accord.
Donc, dans l'idée, de rejoindre, soit la région, soit des boîtes dans le coin qui font de l'urbanisme, quoi.
Ouais.
Et moi, je voulais faire un peu d'urbanisme, mais au niveau politique.
D'accord.
Et ça m'a saoulé, parce qu'en fait, c'est House of Cards, quoi, l'urbanisme. Donc,
et Sciences Po, ça t'a jamais tenté?
Si, c'est Sciences Po qui n'était pas tenté par moi. C'est différent.
T'avais passé le concours?
Ouais, j'étais en liste d'attente à Bordeaux, et sinon j'ai tout raté. Parce qu'en fait, je pense qu'au fond, et c'est ça le problème, c'est que ça me faisait chier. Le concept de concours d'entrée pour Sciences Po m'emmerdait, et j'avais pas envie de bosser, quoi. Ça m'intéressait pas. Enfin, j'étais en mode, ouais, je veux bien rentrer à Sciences Po, mais s'il faut que je bosse, c'est mort, quoi.
Et l'audiovisuel, ça a jamais été une option pour tes études? T'as
non.
jamais pensé à...
Pas du tout, non, vraiment pas.
T'étais pas en terminale L audiovisuel?
J'étais en S en plus, donc pas du tout.
Effectivement.
Et non, ça m'intéresse, non. J'avais un blog à l'époque qui marchait pas mal, mais donc j'écrivais sur ce blog, mais c'était hors de question que j'en fasse mon métier. Tu vois, je voulais encore être un peu journaliste.
Ouais.
Et puis la géographie m'a fait dire, ah vraiment, il y a peut-être d'autres trucs à faire, notamment l'urba et tout. Mais non, écrire en tant que tel, j'aimais bien, mais comme un petit hobby, quoi.
Et ton blog, il portait sur quoi?
Ah.
Est-ce que c'était un point skyblog.com?
Ouais, un peu.
Ah, génial.
Mais c'était un skyblog pour un mec un peu edgy, tu vois.
D'accord. Enfin,
c'était pas un skyblog, c'était sur un site qui s'appelle Yaronet. c'est horrible ce que je dis, parce que je pense qu'il est encore référencé. Hein. Et le blog s'appelait Sodomite, S-O-D-O-M-Y-T-H, parce qu'en fait, mon pseudo, quand j'étais ado, c'était Mythe, M-Y-T-H.
Ouais.
Rapport aux jeux vidéo auxquels j'ai jamais joué. Donc, très bien. Grosse fraude. Et ça faisait un jeu de mots cocasse avec à la fois ainsi fait cette personne qui a pris un pseudo ridicule et également la bite. Donc, un petit jeu là-dessus. Et ça marchait bien. Alors, c'est con, mais je devais avoir entre. Je crois que j'avais 500, 700 visites quotidiennes.
Quand même,
dans les
pour l'époque.
Ouais, ce qui était ouf. Et du coup, c'était vraiment des chroniques à la con. Mais en fait, je regrette tout. Enfin, je regrette beaucoup de choses. Et ce qui est horrible, c'est que j'ai fait plein d'articles en mode « Pourquoi Zaz, elle est trop conne ?»« Les bébés brunes, c'est de la merde !» Je crois que j'ai fait un article en mode « Les meufs qui portent des mini-shorts, c'est des connasses par rapport aux meufs qui portent des mini-jupes, tu vois ?» Et vraiment, c'était un truc Je pense que ça cartonnerait aujourd'hui. Mm-hmm. C'est horrible hein, parce que c'est gratuit, c'est violent. Je pense que c'était borderline sexiste, raciste et tout. Parce que bon, t'as 18 ans, t'as pas internet, t'es pas formé.
Ouais,
quoi.
Et puis bah, c'est... Et puis on évolue maintenant, on a 10 ans de plus. Plus.
Grave. Après, moi, ce qui m'embête, c'est que c'était un blog qui était très orienté sur clasher des gens.
D'accord.
Vraiment, t'es un peu en mode en train de faire. Si tu te fous de la gueule un peu des gens, ouais. J'aimais beaucoup me moquer de Paris Hilton, tout était gratuit quoi.
Ouais.
Et en fait, il y a un jour où ça m'est retombé dessus, et à partir de là, le blog a été un peu moins publié.
Raconte-moi ça.
En fait, il y a un jour, j'ai vu un site qui s'appelle Brave Patrie, qui a publié un article, et c'était en mode le Conseil constitutionnel veut baisser, enfin, veut interdire chaque au moins de 16 ans. Et là, je suis parti sur un article, mais ultra salé, en mode les gens qui font ça, c'est des connards et tout machin. Et c'était un peu, j'aime beaucoup Pierre Desproges. Mon grand-père me faisait écouter Pierre Desproges quand j'avais 12 ans. Et j'étais déjà un énorme putain de snob quand j'avais 12 ans. Donc ça matchait, tu vois, le style, tu imagines.
Est-ce que du coup tu tweetais, enfin, je sais pas s'il y avait encore Twitter à l'époque, mais est-ce que tu tweetais que Pierre Desproges pourrait se retourner dans sa tombe, peut-être, ce genre-là ?
Non, pas du tout, parce que là, non. Mais,
est-ce que tu disais, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ?
Non, même pas. Non, parce que, en fait, les gens qui disent cette phrase ne la comprennent pas, c'est horrible. Oui. Et en fait. Moi, mon grand-père qui m'avait fait écouter ça m'avait fait comprendre qu'en gros, c'était bah, il a pas envie de rire avec quelqu'un du Front National. Donc, moi, tous les gens depuis tout le temps qui me disent on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, tu fais genre bah mon gars, réfléchis. Et du coup, non, par contre, en fait, c'était vraiment, c'est vraiment acide, amer. Et les gens en redemandaient en fait. Les gens, ils en redemandaient de ouf. Ils étaient en mode vas-y, qu'est-ce que tu vas tracher aujourd'hui? Tu vas cracher sur qui? Ça va être trop bien. Mais moi, j'étais en mode non, mais je veux juste parler de jeux vidéo et de Doctor Who. Et là, mes stats ont commencé à tomber. Mm-hmm. Et du coup, j'ai fait bon bah stop, enfin, s'il faut commencer à cracher sur des gens pour le faire, c'est mort.
Ouais.
Et l'autre deuxième truc, attends, qu'est-ce que il y avait eu un autre bail où je m'étais fait avoir aussi, mais comme un con, je sais plus ce que c'était. Mais bref.
Si ça te revient pendant le déclic, tu pourras faire un petit jingle anecdote.
Je l'avais sur le bout de la langue là, mais ça m'a. Mais il y a eu 2-3 fois où je me suis foutu de la gueule de. Ah si, c'est quand Julien Doré avait repris Alizé.
Ah oui.
Et c'était très drôle, et c'était évidemment du second degré. Ce que moi, en fait, j'ai pris au premier degré, parce qu'en fait, ça correspondait vachement avec mon style de critique et tout. Mmh. Et j'ai fait un article vraiment en mode « Pourquoi il fait ça? Il est beaucoup trop con. Enfin, si c'est pris pour qui? Ça marche pas du tout, machin, etc. Ouais. » Les gens ont bien aimé l'article, mais en fait, il était à côté de la plaque. Et je m'en suis vraiment voulu. Et donc, voilà. Et donc, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté d'écrire pendant un moment. Et voilà.
Pour ça?
Ouais, parce qu'en fait, t'étais en mode « Ben... » J'ai l'impression que les gens m'attendent que pour cracher sur les gens.
Oui, effectivement.
Mmh. Et moi, j'ai plus envie de faire ça, donc...
Je comprends. Et du coup, tu disais, pour en revenir à tes études, tu disais que tu as grandi entre la Normandie et la Bretagne. En te connaissant, je sais que tu as fait tes études à Caen.
Ouais, je suis revenu.
Et du coup, ouais, mais tu es arrivé quand à Paris? À quel âge à peu près?
C'était en 2013.
Ouais.
C'était septembre 2013, très exactement. Après mes études, en fait, j'ai fait un an de radio à Caen.
Mm-hmm.
Et après, je suis parti à Cardiff pendant un an.
On va en parler.
Mais c'était ouf. Et après, Paris.
Alors, la radio de Caen, je ne l'avais pas justement, mais attends, on va en parler juste après. Parce que je t'ai un peu stalké. Je connais ton histoire, mais je ne connais pas tout, surtout comme je le disais dans l'intro, tu fais 1000 choses. Et donc, évidemment, pour préparer ce déclic, j'étais te stalké sur LinkedIn. Mais tu n'as pas mis ton expérience.
Je crois que je ne suis pas à jour, ouais. De quoi?
Canaise, canoise, je ne sais plus. Quelle est la différence entre Caen et Cannes pour les habitants?
Canaise, je pense, ouais, Canaise.
Ok. Très bien. Alors du coup, on va arriver vite à ton déclic, puisque c'est tout ce parcours qui nous intéresse. Toi, ton déclic, il est apparu quand tu as assisté à l'enregistrement d'une émission de France Inter en 2011. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais, grave. En fait, quand j'étais à Caen, donc j'habitais avec ma copine de l'époque, et du coup, j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup de radio, parce qu'en fait, on n'avait pas Internet. C'était l'époque où avoir Internet, c'était chiant.
Ouais.
T'avais pas de portable, il n'y avait pas de 3G vraiment. Mmh. Ça coûtait cher, donc on avait un free wifi complètement flingué, mais par internet.
Mmh.
Donc du coup, il fallait qu'on télécharge des trucs sur Mega Upload à la fac, tu vois. Et j'écoutais beaucoup de radio, en fait, parce que la radio, bah ça, ton débit free wifi, il le tolère, quoi.
Ouais.
Et j'adorais écouter des émissions sur France Inter. Et
notamment... Non, justement, excuse-moi, je fais une petite question.
Ouais.
À part, la radio, ça a toujours fait partie de toi, en revanche. Parce que t'as... Ah non, parce que toi, t'écoutes encore beaucoup de radio maintenant.
Ouais.
Même si ta carrière a pris un autre tournant aujourd'hui, t'es toujours très radio. Mais quand t'étais petit, quand est-ce que c'est venu cet amour de la radio?
Quand je l'ai vécu tout seul et que j'avais pas Internet. Non, mais en fait, il y a un truc qui est génial avec la radio, c'est que c'est le... Et ça s'est vu pendant le coronavirus, là, pendant la quarantaine, c'est que c'est le média qui est le plus proche de toi. Alors, maintenant, il y a Twitch, mais tu vois, il y a des médias qui font du live, il y a Instagram et tout, etc. Mais quand t'as pas Internet, en fait, la radio, c'est le média qui sera toujours avec toi, quoi qu'il arrive.
Mm.
Parce qu'en fait, même si t'as pas Internet, même si t'as zéro matos, un poste de radio,
c'est
hyper accessible. Tu peux l'écouter n'importe où, Et c'est précieux, en fait.
Et puis, il n'y a pas de... C'est con, mais il n'y a pas de redevance radio, par exemple, que la télé...
Si, va pour... Bah, t'as la pub pour les trucs
privés.
Oui,
non, privés, mais je veux dire que tu la payes pas. Et... Par exemple, tu n'as
pas... Ah, tu la payes pas, ouais.
Ouais, tu vois, voilà. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle, quand j'étais en CM2, j'avais eu une petite radio portable, etc. Ah ouais. La première fois que j'écoutais Skyrock.
Bah, c'est trop bien.
Que j'écoutais le live de Difool le soir, etc. Enfin,
et moi, je l'écoutais pas, parce qu'en fait, je trouvais ça... Parce qu'encore une fois, j'étais un petit con, un peu snob, et que tous mes potes écoutaient Difool à la radio, et moi, j'étais en mode, rire et chanson. Donc, et j'écoutais pas tant que ça, en vrai, quoi.
Ouais.
Mais quand j'étais étudiant, j'écoutais la radio tout le temps. Du matin au soir. Et que France Inter. Et en fait, c'est trop bien, parce que France Inter a une variété d'émissions très différentes, toutes que j'aime pas plus que ça, mais en fait, déjà, ça te rythme. T'as une présence avec toi qui est hyper importante. Et en fait, c'est con, mais chaque émission a un son particulier. Chaque radio a une couleur particulière. Ce qui fait qu'en gros, ça va rythmer ta journée et ça va te... Tu te sens moins seul, en fait.
Ouais.
Tu te sens avec quelqu'un et avec des gens. Et je trouve que c'est pas la même chose d'écouter de la musique sur Spotify que d'écouter de la musique qui passe à la radio. Ouais. Même tu choisis pas la playlist, mais... Quand tu écoutes de la radio, tu sais que tu n'es pas seul inconsciemment. Et tu as un petit présentateur qui te fait 2-3 mots à droite à gauche. Il y a un truc dans ton inconscient qui se passe. Et c'est pour ça que Spotify, j'aime bien. Et Hype Machine, j'adore. Enfin, j'écoute de la musique partout sur Internet. Mais rien ne bat les radios musicales de la BBC. Rien ne bat FIP. Parce que tu as une présence de malade. Et c'est trop bien fait. Et donc ça, quand j'étais à la fac et que j'avais pas Internet, bah, c'était que ça. Quoi.
Et du coup, donc, mais tu as assisté donc, à un enregistrement de France Inter ?
Alors, pire que ça, en fait. C'est-à-dire que en 2011, donc l'été 2011, non, l'été 2010, pardon, attends, c'est quelle année que je me plante pas ?
Moi je dis 2011.
Ouais, et bah oui, je me suis planté, je pense que ce truc-là c'était en 2010. Aha. Mais je dis 2011 parce que c'est l'année 2010-2011.
D'accord, oui.
Et que c'est au début de cette année-là. Donc j'avais un mémoire à faire. Attends, putain, non, je crois que peut-être que je me plante encore. Ah ! Je sais même plus. Non, c'est 2010. 2010-2011, après il y a eu 2011-2012. Ouais, donc c'est ça. C'est ça, c'est septembre 2010. Donc j'étais en stage d'urbanisme.
Ouais.
Et là, je me disais, chiant. Et on devait partir à l'étranger avec ma copine.
Ouais.
Et en fait, elle voulait prendre une année d'études de plus avant de partir. Et j'ai fait, ok, pas de problème, évidemment, moi je trouverai un truc à faire. Donc j'ai rempilé sur une autre année d'études. J'ai fait LEA. Enfin, j'ai fait un Master 2 en LEA, projet européen.
D'accord.
En mode, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi pas. J'aurais pu avoir un boulot comme tout le monde. Et du coup. Je sais pas trop quoi faire et j'écoute beaucoup la radio.
Ouais.
Et je tombe sur une annonce de France Inter qui dit va y avoir une émission à la rentrée ou alors en fin d'été, je sais plus trop quoi, ou à 5h du matin, c'est des auditeurs de France Inter qui viennent en studio pour parler quoi. Et moi, faut savoir que les émissions de France Inter, enfin faut savoir, c'est pas non plus une obligation, hein, mais les émissions de France Inter que j'écoute, c'est des émissions qui sont ultra produites, qui sont incroyables, ça s'écoute un peu comme une série.
D'accord.
Et si enfin, il y a beaucoup d'émissions que j'ai faites après, même que je fais maintenant sur Twitch, qui sont directement héritées de ça, parce que c'est Panique au Mangin Palace, La Cellule de Dégrisement, Parking de Nuit, c'est trois émissions qui... Ça a un peu comme ce que fait... Affaires Sensibles.
D'accord.
Bah, Fabrice Drouel. Très produit, très bien lu et tout. Hein, magique, quoi. Et pour moi, c'est... Pour moi, c'est un truc... Ça fait rêver, tu vois. Pour moi, c'est Disneyland, ça, en termes de production. Et donc, je postule. Hein, je voudrais parler de moi à la radio. Et elle me fait... je reçois un mail. Ouais, pas de problème, bah venez. Déjà, pour moi, c'est un truc de malade, tu vois. Que la prod de France Inter m'ait répondu, bah venez, puis vous allez pouvoir voir les studios.
Génial. Oh,
truc de ouf.
Et du coup, c'était France Inter Paris
France Inter, ouais, France Inter. France
Inter, oui, France, le siège de France Inter.
Le siège de France Inter.
D'accord, génial.
La radio France Inter.
Oh,
France Inter, la radio.
C'est vrai qu'il n'y a pas de radio régionale pour France Inter, j'ai n'importe quoi.
Non, c'est France Bleu.
Ouais, c'est France Bleu, ouais.
Mais du coup, donc, je vais dans les studios, 5h du mat, je suis arraché.
Ah oui, en plus pour la matinale.
Ouais, pour la pré-matinale.
Ah, la vache.
La matinale, elle commençait à 7h. Moi, c'était 6h. Non, c'était 5h, 6h.
Ah ouais.
C'était dur. Et donc du coup j'arrive, hop, 5h du mat, donc tu te lèves 4, machin, etc. Et je venais de rendre mon mémoire, j'avais rendu mon mémoire la veille.
Ouais.
Et donc j'étais déjà en train de me dire, bon, pas ouf. Et je vais à la radio, et je vois l'émission, et en fait, je sais pas comment, l'émission se passe plutôt bien. Je raconte une blague de beat à l'antenne, qui est indiscernable si tu n'as pas la ref, mais en gros j'avais fait un pari avec un de mes meilleurs potes, de dire vas-y, à un moment donné je vais faire, on devait ramener un objet. On devait ramener un objet. Et j'ai fait, je vais parler de mon petit poney rose et je vais faire une métaphore dessus. Et en fait, ça sera, si tu remplaces mon petit poney par ma bite, ça marche. Et voilà. Donc, j'ai ramené une figurine de mon petit poney à France Inter. Et j'ai dit, j'adore jouer avec mon petit poney, franchement. C'est tous les jours, une fois par jour, j'ai tendance à avoir un... Enfin, il est toujours là, il a toujours été dans ma vie. Et puis, Ouais, j'aime bien. Il y a un côté un peu où tu te recueilles avec. Et en même temps, toujours un peu le plaisir. Bon, des fois, j'invite des gens à jouer. Et vraiment, une métaphore filée sur vraiment 10 minutes qui
Ils ont
était trop
capté ou
longue,
pas?
je pense. Et en fait, je suis sorti avec un sentiment de. Bah, en fait, faire de la radio, c'est pas dur. C'est plutôt facile, en fait. C'est-à-dire que la meuf était toute seule. Elle arrivait, elle avait préparé ses questions et tout. J'ai fait, bah, vas-y, go, on le fait. J'ai convoqué un de mes meilleurs potes. J'ai fait, mec, bah, je viens de faire. Vas-y, on fait une émission à deux, quoi. On a commencé à faire une émission hebdo qui était méga produite, assez stylée, qui s'appelait L'Ascenseur, qui, je crois, est encore dispo sur Internet si on cherche
Et
bien,
ça
mais je.
encore une fois, tu vois, je l'avais pas
Ah,
préparé.
nickel, c'est bien
Vous
qu'il y ait
êtes
des.
un homme de mystère, Erkouette.
Mais du coup, cette émission, je l'ai faite avec un mec qui s'appelle Dari, qui fait la chaîne Temps Mort sur YouTube en ce moment. Et c'était cool, quoi. On s'est trop éclaté, c'était le bordel et tout, en radio associative à Caen. Et à la fin de l'année, donc déjà je voulais faire une deuxième année, mais à la fin, donc il y a cette rupture que je raconte dans ma chanson.
Tout à fait, je vous invite à aller l'écouter du coup.
On devait partir à Londres tous les deux. Elle a fait, moi j'y vais,
Toi,
mais
tu
pas avec
restes.
toi. Moi j'ai fait yes, bah
Eh ben
nickel,
merci.
bondel. Ça va, on est potes maintenant, donc c'est cool. Mais pour le coup, il y a vraiment eu ce côté de bah, qu'est-ce que je fais de ma vie. Et donc j'ai fait à la radio. Je peux avoir un job chez vous? Ils m'ont fait absolument,
Mais génial.
ce qui n'arrive
France Inter
jamais.
encore?
De quoi?
France Inter encore ou
Non,
t'as pas
non, ça
les...
c'était Radio Phoenix à
Ah oui.
Caen, radio étudiante.
D'accord.
Et j'avais une émission quotidienne à la radio et c'était trop bien.
Génial.
Voilà, et ça a lancé le goût du truc et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la radio. Et plus j'ai commencé à avoir internet, plus j'ai commencé à me dire que YouTube c'était pas mal, sans savoir vraiment quoi faire. Et finalement, j'ai fait que ce que je savais faire, donc des interviews, n'importe quoi, et être lassé d'une idée au bout de 2 mois, un truc comme ça.
Mais outre l'envie de créer ta propre radio avec ton pote, dont tu, enfin ta propre émission avec ton pote dont tu nous parlais là, qu'est-ce que ça a déclenché en toi le fait de participer à cette émission de radio à part, est-ce que ça a été comme une vocation ou juste
Ma
une
puberté déjà.
évidence?
Non, je me suis dit c'est trop bien, tu vois, tu penses comme un
Ouais,
hobby. En fait, tu
ouais.
fais ah oh, putain, c'est trop
Tu t'es
bien.
rendu compte que c'était un vrai, ça pouvait être un vrai truc quoi.
Ouais, c'est un kiff. Après, c'est un kiff avec lequel je suis en très mauvais terme.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est ce truc, et je le vois pareil, parce qu'en fait, le truc, c'est que la radio, on pense que c'est uniquement. Enfin, pour moi, la radio, c'est faire des émissions de radio, ça se fait comme une émission YouTube, ou comme une émission Twitch, ou comme tout, quoi. Et j'ai un rapport très conflictuel avec la création, parce qu'à chaque fois que je suis dedans, à chaque fois que je fais une émission, je me dis oh, putain, mais quelle idée de merde! Quelle idée de merde! De merde! Et vraiment, c'est tellement. Je suis tellement en train d'en chier tout le temps que je me dis.
C'est ton côté, c'est pas un côté un peu artiste maudit ça?
Non.
Si.
Non, non, le côté
Parce que
artiste me dit, c'est quand tu dis personne ne comprend.
moi, pour moi, il y a aussi le côté où t'es jamais satisfait de ton truc, quoi.
Ah non, c'est pas que je suis jamais satisfait de mon truc. C'est que pendant que je le fais, je me dis.
Tu perds la foi, quoi.
Pourquoi j'ai fait ça? C'est vraiment pourquoi je me suis fait chier. Après, le résultat est cool. C'est comme quand tu commences à cuisiner une blanquette, tu vois, mais que tu sais pas trop cuisiner très bien. Quand tu dois tout désosser, tout bien faire, tout bien mettre et tout, t'es en train de faire. Oh, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Et après tu manges et c'est super bon. Sauf moi parce que j'aime pas la blanquette. Et du coup, en fait, c'est plutôt le fait de dire la radio c'est fantastique, ou même YouTube c'est fantastique, ou Twitch c'est fantastique. Moi, ce que j'aime bien, c'est le concept de possibilité qu'il y a derrière. Genre, tu peux tout faire avec. Là, le champ des possibles est infini. Tu peux. Qu'est-ce qui te limite là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce qui te limite pour faire des, pour créer un contenu exceptionnel, pour faire quelque chose que t'as jamais osé imaginer voir? Qu'est-ce qui te limite, quoi?
Mais tu vois, toi, t'es un mec, enfin, malgré ce que t'en dis, t'es un mec hyper créatif, Thomas. Et ça a toujours été, enfin, tu vois, c'est des questions que j'ai déjà posées avant, mais je suis sûre qu'il y a un truc derrière toi où t'as toujours eu envie, toujours eu besoin de créer, en fait, parce que tu fourmilles d'idées, quoi. Enfin, je sais pas, est-ce que t'as toujours eu envie de créer au sens,
Oui,
Oui, bien sûr.
bien sûr. C'est juste qu'en fait, cette envie de création, elle était motivée par plusieurs trucs au fur et à mesure du temps. Mais ouais, bien sûr. Là, c'est ridicule, mais il y a un bouquin que j'espère vraiment sortir à un moment donné, que j'ai commencé à recycler sur Twitch, qui est né. Alors attends, parce que je peux te faire la genèse du projet. C'est
Bien
un
sûr.
projet qui, en gros, date de mes 7 ans et demi, tu vois.
Génial.
Donc, à 7 ans et demi, je commence à écrire une histoire. Genre, il y a des mondes parallèles qui existent. Tu fais, ok, cool. Et cette idée commence à germer, 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 germer. Tu vois, j'écris des trucs, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage, il n'y a rien, tu vois. C'est juste un enfant qui se dit, imagine, il y a des mondes parallèles, il y a des mecs qui doivent le sauver. Bon, après, depuis, on a inventé les fanfictions et il n'y a que ça. Après, quand j'étais ado, j'ai découvert un logiciel qui s'appelle RPG Maker pour faire des jeux vidéo. Donc j'ai repris cette histoire-là que j'ai adaptée en mode, il y a des mondes parallèles, il faut sauver le monde maintenant, mais c'est un jeu vidéo. Et ça n'a jamais abouti parce que ça m'a fait chier très vite. Mais c'était un bon exercice pour, là, te confronter à c'est quoi un personnage, c'est quoi un jeu vidéo, etc., etc., etc. Tu le vis à travers ce prisme-là. Après, ça a été quand j'étais à la fac et en prépa, c'est un bouquin que j'ai recyclé en mode, bon, il n'y a pas des mondes parallèles, il y en a un, et c'est le bordel. Et là, en fait, comme t'es un peu plus âgé et que t'es en prépa, tu commences à questionner, ok, qu'est-ce que je mets dedans? Et là, c'est un projet que j'ai récupéré d'autres tombes pour une émission sur Twitch, où je me suis dit, bon, bah, en fait, on va créer des histoires autour de cet univers-là, qui reprennent la trame, enfin la colonne vertébrale de tout ça, et qui vont graviter autour. Donc en fait, il y a des trucs que... Il y a des histoires et des thèmes qui me touchent et que j'ai accumulé au fur et à mesure des années, mais que je n'arrête pas de recycler, quoi. Le bouquin que... Je sors un bouquin, excusez-moi, pardon, je me fais un précisé, je sors un bouquin. L'histoire que j'ai racontée, là, sur Wattpad et qui sort en bouquin, c'est un truc qui date d'il y a 10 ans, et j'étais en mode genre, vas-y, je l'écris. Oh, ça me saoule. Je laisse tomber, et au bout d'un moment, je fais, ah, mais je mets bien, en fait. Et en fait, c'est juste que cette envie de créer, je pense que c'est des époques qui se répondent à elles-mêmes. Ouais. Et c'est des versions de moi-même qui se répondent au fil de...
Et puis c'est cyclique, finalement, parce qu'il y a des... Ouais. Enfin, perso, j'ai toujours... Je suis absolument pas en train de raconter ma vie, mais un peu quand même.
S'il te plaît, fais plaisir,
non, non, mais j'ai toujours été comme ça aussi. Tu vois, quand je te disais, moi, quand j'étais gosse, j'ai créé mes histoires, donc avec Digimon. Mais c'est pareil, il y a des moments où je ne crée plus du tout, et des moments où je reprends d'un coup, ça va me prendre d'un coup, je vais faire que d'écrire, etc. Mmh. Mais je comprends tout à fait. Mais d'ailleurs, on va en parler à la fin de ton livre, etc. Oui. On va faire un petit peu de promo. Je reviens quand même sur ton déclic, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes ici, monsieur Arquette. Je reviens juste sur ton projet aussi avec ton ami quand tu as fait cette radio libre à Caen. Est-ce qu'après avoir eu ton déclic chez France Inter, tu t'es dit effectivement que ça pouvait être un vrai métier, mais est-ce que tu t'es dit d'un coup, genre, ouais, c'est ça que je veux faire dans ma vie, ou est-ce que c'est juste une idée qui a germé comme ça, une petite graine qui a été plantée et qui au fur et à mesure s'est cristallisée
Non, c'est-à-dire qu'au moment où on a commencé l'émission, j'ai fait, ok, mon objectif c'est d'avoir une émission sur France Inter.
Ouais.
Point. Terminé. C'est fait, c'est ça, tu vois, c'est ça mon but dans ma vie, quoi. Après, j'ai eu ma quotidienne à Radio Phoenix. Mm-hmm. Là, j'ai commencé à reprendre des contacts. Il y a eu des moments très gênants où je suis allé à France Inter. Je suis retourné à France Inter après, je suis allé dans les bureaux des gens qui faisaient mes émissions préférées. Je leur faisais genre, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai fait une émission où j'ai un peu copié votre concept, c'est trop bien. Et vraiment, ils se sont retournés vers moi, ils m'ont fait, en fait, on bosse là. Et je ne peux que les comprendre, c'est tout à fait normal. Mais et on a eu l'occasion d'en reparler après, plus tard, mais c'était terriblement gênant. Et ils ne s'en rappellent pas, donc ça m'arrange. Et en fait, après, donc, j'ai continué à faire de la radio, tout ça dans l'objectif de me dire France Inter, un jour je travaillerai à France Inter, c'est obligé, c'est mon destin, tu vois. Je suis trop. Donc j'ai fait tout mon petit parcours comme ça. Au début, j'étais à Radio Phoenix, après, j'ai fait de la radio en Angleterre, j'ai fait une émission de fiction qui était vraiment, pareil, méga produite, qui parlait d'un détective privé. Belle recherche. Et après, je suis revenu en France. J'ai bossé un peu pour Le Move et pour des programmes un peu alternatifs de Radio France qui cherchaient des nouvelles plumes. Après, je suis rentré à France Bleu. Mm-hmm. Et quand je suis rentré à France Bleu, j'avais ma copine qui habitait à Paris. Et j'étais en mode, si je continue à faire de la radio, je vais devoir rester à France Bleu un moment. Donc, je vais devoir rester en région un moment. Mm. Je vais pas pouvoir vivre avec ma copine. Ça m'arrange pas. Et là, j'ai fait, au revoir Radio France, ravi de vous avoir connu. C'était très bien. Et c'est vrai que c'était très bien. Mais c'était plus... ça m'a fatigué. Puis moi, j'ai plein de potes et de collègues qui bossent à France Inter. Et je me dis que c'est plus mon objectif, quoi. Mon objectif, maintenant, c'est de m'éclater. Voilà, point.
Mais on va revenir justement sur ton expérience à Cardiff. Donc, t'es parti à Cardiff en 2012.
Oui.
Et là-bas, t'as développé l'émission The Sunday Evening Detective Cabinet.
Bien joué. Oh putain, très fort. T'as le nom complet. Cool.
Écoute, j'ai fait un stage en linguistique à Southampton quand j'étais petite.
Tout à fait.
Sur Express Radio.
Ouais.
Tu veux nous en parler un peu ou pas?
Ouais, déjà, le titre est un jeu de mots parce que ça se prononce ACDC et c'est comme le groupe de rock. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai pitché le truc. C'était une émission où j'incarnais un détective privé qui. Enquêter chaque semaine sur un phénomène. Il y avait Harry Potter, les dragons, Doctor Who, Pokémon, la politique. Enfin, c'était très éclectique. C'était une heure.
Très éclectique, mais très Thomas Hercouet.
Oh oui, bah évidemment. Éclectique, oui, ça parlait très peu de sport. Et en fait, c'était cool parce que c'était très écrit, très produit. Il y avait beaucoup... Enfin, en fait, je crois que chaque émission me demandait une vingtaine d'heures de boulot.
Ah oui.
Et c'était méga monté et tout. Et il y avait beaucoup de fausses interviews avec des personnages. Et pour ça, en fait, j'étais avec une troupe d'improvisation.
Génial.
Qui était un peu les petits nerds de Express Radio. En fait, la radio anglaise est très différente de la radio française, dans le sens où elle est très centrée sur des DJ, donc des animateurs, mm-hmm. qui ont un rapport qui est très direct et très frontal. Sauf que France Inter, c'est très produit, c'était ma culture, c'est mm-hmm. hyper produit, il y a plus de distance, c'est quasiment des pièces de théâtre, quoi. Ou des documentaires. Et là, du coup, j'ai fait, bon, on va tester ça. Et donc, les gens qui, à la radio, faisaient des sketchs d'improvisation étaient un peu vus comme les types, on sait pas trop ce qu'on va en faire, vu qu'en fait, quand tu fais de la radio étudiante au Royaume-Uni, c'est que t'as envie d'aller à BBC Radio 1. Et t'as pas envie de faire des pièces de théâtre, quoi. Et donc, nous, bon, en fait, j'arrivais devant eux et je leur faisais, bon, faut que t'improvises un dresseur Pokémon. Voilà les questions que je vais te poser. Voici des pistes pour les réponses. Tu te démerdes. Et donc, on se faisait des échanges entiers comme ça. Moi, je montais les trucs derrière. Et ça, c'était le pic de quelle idée de merde. Pourquoi je me suis emballé là-dedans? Parce que, par exemple, j'ai fait un mashup audio des deux Sherlock Holmes,
ouais.
de Robert Downey Jr. Mm-hmm. et de Benedict Cumberbatch, qui bossent ensemble et qui s'insultent. Et ça, ça m'a pris beaucoup trop de temps. Le résultat n'était pas si ouf. Et tu vois, t'es en mode, il est 2h du mat. T'es sur ton ordi, dans une petite chambre à Cardiff, et tu fais, je suis même pas payé pour ça. Quel est ce problème?
Mais comment t'es rentré là-bas?
En fait, la radio est pas si cool que ça.
D'accord.
Un peu cool, mais pas tant que ça. Et du coup, je suis arrivé, j'ai vu la meuf qui gérait la radio, j'ai fait, je veux faire ça. Elle m'a dit, t'es étudiant? J'ai fait, pose pas de questions. En fait, j'étais pas étudiant, j'étais prof, enfin, j'étais assistant de langue.
Ouais.
Donc j'ai fait, techniquement, je suis étudiant. Elle fait, ok, d'accord. Et après, j'ai fait, en France. Et je faisais pas partie de la fac, du tout. Et elle m'a laissé rentrer, et voilà. Et après, elle m'a dit, tu seras le dimanche soir quand personne n'écoute. Et nickel, très bien.
Comment t'as appréhendé le fait de le faire en anglais? Enfin, tu es bilingue, mais est-ce que ça a été un problème au départ, surtout avec l'accent gallois?
Non, parce qu'ils parlent. Non, ils ont tous un accent compréhensible à Cardiff. Là, ils viennent, c'est des étudiants de Cardiff, ils viennent un peu de partout du Royaume-Uni, vu que c'est moins cher. Mais non, c'était cool. Puis en fait, je pense que même eux, ça les a trippés de voir. J'étais pas le seul français à faire une émission de radio. Il y a une autre fille qui s'appelle Yasmine qui faisait ça aussi. Mm-hmm. Très cool. Mais ouais, c'était marrant, quoi. Ils étaient en mode genre, oh, il essaye. C'est trop mignon.
Et t'es resté combien de temps là-bas?
Ah non, enfin 9 mois, 10 mois.
Ouais, une année scolaire.
Ouais, voilà, c'est ça, de genre fin septembre à fin mai.
Et qu'est-ce que t'en retiens de toutes ces expériences, tu vois?
Pff, des gueules de bois, meuf. Tellement de gueules de bois. Non, c'était ouf. C'était une année d'expérimentation totale et c'était drôle.
Et c'est hyper créatif en plus ce que tu faisais, quoi.
Ouais, c'était cool.
Et à la fois sur l'actu en plus, un peu, puisque tout ce qui est Pokémon. Enfin, moins Pokémon.
Bon, c'était pas actu.
Mais les films Sherlock Holmes sont sortis en quelle année?
Bah avant, hein. C'était un peu avant. C'était pas méga actu en fait, parce que je m'en foutais. Mais.
Toujours disruptif.
Bah ouais. Mais c'était rigolo en vrai, c'était marrant à faire. Et puis c'était. Je l'avais pas proposé en podcast de manière.
C'est vrai que ça faisait très podcast finalement, le fait que ce soit hyper produit et tout.
Bah ouais, un peu. Mais il y avait des musiques en fait, et le fait qu'il y ait des musiques dans un podcast, des musiques complètes, tu vois, ça marche pas.
Oui.
Puis j'étais pas très podcast à l'époque, je savais pas comment ça marchait. Donc. Mais j'avais mis sur YouTube un peu, bon, je pense que ça intéressait 5 personnes, quoi. Mais c'est trop marrant à faire. Et en fait, ça m'a permis de rencontrer des gens, notamment à Cardiff, pays de Doctor Who. C'est là que Doctor Who est tourné, donc j'ai pu rencontrer des gens qui ont fait Doctor Who.
Génial.
J'ai eu une petite interview qui n'est jamais passée, mais une interview du mec qui fait la voix des Daleks, donc des méchants. Plein de trucs comme ça, c'était cool.
T'as pleuré ou pas?
Je me suis masturbé allègrement après, bien évidemment. Considérablement branlé dessus. Et non, en vrai, j'ai pu faire plein de rencontres de dingue et c'était cool. J'ai vu le mec qui a fait le scénario de The Dark Knight Rises.
Oh.
Et je lui ai fait, t'étais vraiment sûr de tout? Non, c'est faux. J'ai fait, bonjour monsieur. Bravo. On l'embrasse s'il nous écoute. Et mais ouais, non, c'était cool. Mais après, ce qui est ressorti, c'est ce côté très. On peut faire la teuf et bosser dur en même temps. Cool comme concept. Je propose que ce soit toute ma vie comme ça. Et c'est à peu près toute ma vie comme ça. Donc, c'est cool.
Et t'en parlais juste avant, ta deuxième expérience radio, et donc pas des moindres, c'est que tu as bossé à France Bleu, notamment France Bleu Isère, si je me
trompe
pas.
Ouais, à Grenoble.
Tu peux nous en parler un petit peu, un peu plus en détail que...
Ah ouais, c'était... Moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que mes collègues, moins. Mais c'était vraiment cool. Enfin, c'était vraiment une année d'alternance pour apprendre à faire de la radio en mode France Bleu. Donc, c'était Radio France qui payait des études.
Et ton alternance, c'était avec tes études de...
Alors, j'avais appris une année d'études à l'INA,
d'accord.
L'Institut National de l'Audiovisuel, qui proposait des formations pour entrer dans les radios.
D'accord.
Et le but, c'est qu'en fait, Radio France, comme ça, forme des gens pour
pour renouveler un peu leur cheptel, quoi, et pour aussi pour rajeunir la population. Ouais. Du côté animation radio. Sur les journalistes, ça, y a pas de problème, mais l'animation radio, les gens veulent moins faire ça.
Ouais.
Enfin, moi, je préfère, hein, c'est beaucoup plus chill, en vrai, c'est beaucoup mieux. Et du coup, bah, j'étais propulsé à Grenoble, qui était à l'époque, alors je sais pas si c'est encore le cas, parce que le directeur d'antenne s'est barré, je crois, mais qui était à l'époque une des meilleures France Bleue, en termes de qualité de boulot, d'ambiance, de rigueur et de volonté. Et j'ai adoré. Alors, j'étais avec un mec, mon tuteur, mon directeur d'antenne, me faisait ultra peur au début. Genre vraiment, il me terrorisait parce que c'est un mec, c'est un vrai mec, tu vois. Mmh. C'est un vrai bonhomme de la montagne. Et c'était ouf, mais il était très cool, très à l'écoute, un peu bourru, tu vois, mais très à l'écoute. Et moi, en fait, j'étais terrorisé de dire une merde, quoi.
Ouais.
La première émission que j'ai faite, c'était le jour de Charlie Hebdo. Donc, tu commences un peu vénère. Dure. Et surtout, en fait, je pense que je savais pas encore, je connaissais pas le concept de monde du travail vraiment. J'avais bossé un peu dans mon coin en freelance tout le long avant. Et j'étais en mode genre, waouh, ok. Je parle vraiment à des gens qui sont pas de ma génération, faut pas que je dise de merde. Mais après, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est le goût de faire des libres antennes et de parler avec des gens et de dire de la merde sur Internet. Ce que je trouve être essentiel aujourd'hui. Et aussi, à France Bleu Isère, j'aimais beaucoup l'esprit de on peut faire de la merde. Enfin, en fait, j'aimais beaucoup le fait que tu puisses te dire j'ai une idée de merde, on va la faire. Il y a eu un.
T'avais quand même de la liberté, quoi.
Ouais. Ouais, ouais.
Parce que c'est vrai que moi, en tant que public radio qui ne connaît absolument pas ce monde-là de l'intérieur, effectivement, j'ai plutôt une image de quelque chose de plus académique, ou voire austère parfois,
ouais,
tu vois. C'est
pas du tout.
Ouais.
À France Bleu, je pense que c'est la radio la moins austère qui puisse exister.
Ouais.
Parce qu'au contraire, tu vois, les gens, les animateurs, ils sont en mode détente. Et surtout, le mot d'ordre à France Bleu, c'est que tes auditeurs, c'est quasiment tes potes, quoi. Enfin, c'est pas tes potes, c'est tes piliers de bar.
Ouais.
Et quand tu commences à penser ça, en fait, tu passes de bonjour Michel, vous nous appelez d'où exactement, quelle est votre question, à hey Michel, alors comment ça se passe du côté de Val d'Oisans là, qu'est-ce que vous racontez, vous êtes avec quoi, vos vaches, comment elles vont, comment elles s'appellent, et vous passez le bonjour à madame, hein, évidemment, comment vont les enfants et la petite, comment ça se passe, ouais, je vous mets deux coffrets de Pascal Obispo, ah, ça me fait plaisir. Et en fait, cette fraîcheur là, elle est tellement indispensable. Et maintenant tu la trouves sur Twitch et sur YouTube, encore que YouTube de moins en moins, mais tu la trouves vraiment sur Twitch.
Et puis que t'as plus de coffrets de Pascal Obispo, malheureusement.
Ouais, j'en ai trois cartons, hein.
C'est pas
faut
vrai
que j'ai... Non, c'est pas sinon ce serait
super déçu.
Bah, j'en aurais ramené un si tu le sais.
Oui,
et l'autre truc, donc, c'est le côté où t'as une idée de merde, tu l'as fait.
Ouais.
Genre, je sais que j'ai vu plusieurs fois mon directeur d'antenne arriver et faire on va lancer le concours du meilleur gratin dauphinois. Ou alors des trucs en mode on va faire l'arrivée de l'Alpe d'Huez et on va t'envoyer faire un jeu de piste. Trop content de son coup. Et ça, en fait, c'est un réflexe que j'avais pas parce que je venais de France Inter, de culture France Inter qui était très produit, très calé, très on fait des trucs carrés, très bien et tout. Et la spontanéité, en fait, j'avais pas du tout. Donc j'ai vraiment appris à improviser des trucs, à être réactif, ce que je pense ne toujours pas maîtriser à 100%, mais ce côté genre, on pète une grille, pardon, je viens de vous roter à la gueule, mais ce côté vraiment, on se dit que s'il y a une actu, on pète notre grille, s'il se passe un truc important, on en parle, merde d'être là, tu vois, d'être dans le présent, c'est hyper important, et c'est pour ça que bah, maintenant je suis à Topito aussi, quoi, c'est notre taf.
Et du coup, après tout ça, on va y venir, plutôt, t'inquiète pas, mais cet homme est une carrière, une carrière incroyable. Mais après tout ça, tu décides de créer, après toutes ces expériences, tu as créé La Nuit Originale. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément?
Alors, La Nuit Originale, spécifiquement, c'est des nuits blanches de libre antenne qui se passent donc de 15h à 9h du matin le lendemain, donc 18h de régal le plus total. Et où j'invite des potes et des gens qui font des choses sur internet pour faire des émissions de radio en temps réel. Et c'est né en 2015 quand j'étais à Grenoble, à France Bleu. Avant, je faisais des podcasts, j'avais fait plein de podcasts d'interviews, des trucs comme ça, etc. Mais moi, je sais pas, ça commençait à me lasser un peu. Mais je me disais, oh, c'est dommage de laisser tomber parce que les gens m'aiment bien. Et du coup, je me suis dit, bon, je suis à Grenoble, ce que je vais faire, c'est que quand je monterai à Paris un jour, on va faire une grosse teuf où on va faire une nuit de podcast, quoi. Et on va les faire en direct. Et on me dit, ça va être rigolo, ça peut être marrant.
Bien sûr.
Puis je les mettrai en podcast et en replay dans la foulée, ce qui est devenu une vaste blague. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des lives sur YouTube. Et c'était cool. Il y avait Twitch qui commençait à arriver.
Ouais.
Mais bah, j'avais déjà un peu de gens sur YouTube, donc je me suis dit, bah, je vais rester sur YouTube. Ça va
être... Oui, parce que tu avais aussi ta propre chaîne YouTube qui s'appelle L'Original.
À l'époque, ouais, carrément. Et du coup, bah ouais, ça s'est monté comme ça. T'invites les potes, tu leur dis, t'as envie de faire quoi à minuit et demi? Tu veux faire quoi? Et les gens font, bah, je ferais bien un petit blind test ou un petit jeu, machin, un truc comme ça. Et à l'époque, c'était cool parce que ça permettait de rassembler plein de gens qui ont envie de faire plein de trucs et qui ont envie de faire des jeux un peu flingués ou des choses comme ça, et surtout de se retrouver. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, la vraie force de la nuit originale, c'est les coulisses. Parce que sinon, tu peux faire ça sur Twitch maintenant, tu peux faire ça partout, mais réunir des gens pour picoler dans une pièce et à côté faire des conneries à la radio, ça c'est régal, ça c'est une teuf idéale.
Mais donc, d'ailleurs, question, comment t'as fait pour réunir autant de gens du milieu, entre guillemets, parce qu'il y a quand même eu pas mal de célébrités de la scène web et de la scène podcast, par exemple Antoine ou toute l'équipe de 2 heures de perdu, ou les mecs des Suricates, voilà, t'as eu, mais on a quand même eu Fred et Jamy.
Ouais.
Donc ouais, et comment t'as fait pour, alors, c'est des connaissances que tu avais déjà avant ou t'as aussi fait un espèce de... D'appels à potes de potes.
J'essaye de faire en sorte que ce soit des connaissances avant, ouais. Mais il y en a où c'est vraiment des potes de potes. Hein. C'est vraiment, avec les podcasts et les interviews, c'est vraiment, tu as accès à des gens, et des fois le feeling passe pas du tout, mais des fois t'as un vrai feeling qui passe, et tu dis, putain, ce serait cool qu'on fasse peut-être d'autres trucs ensemble que juste moi te demander comment ça va la vie. Et c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Après, il y en a que je connaissais d'avant, en fait.
Ouais.
Tu vois, des gens comme Patrick Beau ou François Torel, je les connaissais avant qu'ils aillent sur YouTube.
D'accord.
Je me rappelle avoir été chez François Torel avant que... Enfin, il commençait à me dire, oh, je me lancerais bien sur YouTube, je vais faire une petite chaîne, machin, ça va être rigolo. Et du coup, il y a des amitiés un peu hasardeuses qui étaient là déjà avant et qui ont consolidé le truc et tout, et voilà. Mais sinon, non, c'est juste envoyer un mail gentil, expliquer le concept et faire... ça va ? Cool ! On fait un truc ?
Ouais. Et comment elle est venue, cette idée de concept, justement ? Comment tu t'es dit... qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, ce qui est vrai, hein, c'est qu'il n'y avait pas de live qui fasse à la fois du YouTube et de l'audio, ouais. Et qui réunisse tous les gens du milieu, etc. C'est un peu les anges de la télé-réalité, parce que
ouais,
je suis une grande fan de télé-réalité.
Mais t'as tout à fait raison.
C'est un peu les anges de la télé-réalité, version web, quoi. Ben, c'est grave. Réunir toutes les personnes qui ne viennent pas du même milieu, je fais... Une métaphore absolument grotesque.
Non, elle est parfaitement fidèle. Elle est parfaite. En vrai, c'était... Bah non, c'est venu parce que justement, j'avais pas l'occasion de voir ces gens individuellement quand j'étais à Grenoble. Donc on a mis tout ce petit monde-là. Bon, ça fait une teuf. Puis je me rappelle avoir passé un coup de fil. Je crois qu'une des premières personnes que j'ai prévenues, c'était Patrick. Beau, du coup. Et je lui ai fait... bah, je vais faire ça. Je sais pas, je vais peut-être appeler la nuit originale, un truc comme ça. J'en sais rien. J'ai pas trouvé de nom encore. Mm-hmm. Donc c'était devenu le nom de code. Et après, en appelant les autres gens en mode « Tu serais chaud pour faire ça ce week-end-là, une petite nuit blanche de radio ?» Tout le monde a fait « Ouais, ok, bah, c'est resté. » Et puis bah voilà.
Trop chouette. Est-ce que tu as une anecdote marquante à nous partager sur la nuit originale ? Enfin, il y en a plein, mais une qui te revient particulièrement.
Une anecdote ? Non, j'en ai une, je ne vais pas la dire. Un mec qui s'est pas réveillé. Il y a un mec qu'on n'a pas réussi à réveiller, mais c'était très touchant. C'était terriblement touchant. Il s'est endormi, il est resté jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Et il s'est écrasé genre à 8h30. Et à 9h, quand tout le monde, 9h30, tout le monde doit partir, on n'arrivait pas à le réveiller. Et c'était tellement... Je veux pas penser son nom parce que je crois qu'il a un peu mal vécu, mais c'était tellement adorable. Moi, je pense que ça a doublé mon amour pour lui. Ouais. Je l'aimais déjà beaucoup en tant qu'ami, mais alors là, je l'ai trouvé tellement, tellement adorable.
Est-ce que tu l'as transporté jusqu'à la voiture comme les enfants qui s'endorment?
Non, on a vraiment fini par le réveiller, mais c'était dingue. Non, en fait, l'anecdote que je garde, c'est qu'à chaque fois, c'est... ultra stressant. C'est pas une anecdote du coup, mais c'est ultra stressant pendant 2 mois.
Ouais.
Les 2 mois de préparation avant, c'est horrible.
Parce qu'en plus, c'est toi qui fais tout. Hein,
ça... Ouais, je suis tout seul, ouais. Ça va falloir que ça change.
C'est que nous, on a déjà été invités avec Sophie, et on te remercie d'ailleurs. Mais effectivement, à part notre shift, on prépare pas grand chose.
Non,
c'est toi qui organise absolument tout.
Ouais, mais parce qu'il y a rien à faire. Le but, c'est que ce soit une teuf. Pour les invités, c'est une teuf. Donc c'est tout. C'est une grosse teuf où tu picoles dans les coulisses, tu joues à la console, tu fais ce que tu veux. T'as des émissions de radio de temps en temps et tu vois un truc qui t'intéresse, tu viens. Mais faut pas que ce soit vu comme une émission de radio, en fait. Faut pas que ce soit vu comme du taf. C'est des gens qui font déjà ça, de la radio, parler aux gens, faire des lives, etc. Donc si tu leur dis, hey, tu peux passer ta nuit blanche de samedi à dimanche à faire exactement ce que tu fais, mais en plus tu gagnes pas d'argent, ça marche pas, tu vois. Et surtout, ils sont pas dans le bon mood. Ouais. Alors que si tu leur dis, bah viens, on va faire la teuf, il y aura des jeux, il y aura à boire et je ramène du mousse, bah, c'est bon, tu. Et puis même, c'est l'esprit, quoi. Les gens, ça se voit, tu peux pas mentir aux gens quand tu fais de la radio. Tu peux pas leur faire croire. Je pense qu'en format monté, genre en vidéo ou truc comme ça, tu peux faire croire qu'une partie se passe bien ou qu'un moment se passe bien alors que l'ambiance est un peu morose. Mais les gens, tu ne triches pas en direct, tu peux pas tricher.
Et du coup, tu nous parlais du fait que tu es chez Topito maintenant.
Depuis 3 ans.
Ouais, 3 ans déjà, c'est ouais, incroyable.
À Passe.
Qu'est-ce que tu fais là-bas?
Ah, bonne question. Non, je suis community manager. On est deux community managers principaux. Et on a une petite armée derrière nous qui a des missions très spécifiques. Et moi, en gros, j'écris des images, je regarde des commentaires, je réfléchis à d'autres formats, je fais des lives.
Ouais.
Et je fais un petit peu les affaires courantes, quoi.
Et tu développes un peu de podcast aussi?
On a un podcast, mais là, on se pose la question de sa survie. Parce qu'en fait, ça prend du temps.
Ouais.
C'est terrible, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut faire un truc qui nous ressemble? On est deux à faire, avec Benoît, qu'on embrasse très fort. Mais il se pose toujours la question de... en fait, le truc, c'est que Benoît et moi, on se ressemble beaucoup.
C'est un peu un vieux couple. Hein.
On est un peu un vieux couple. Et on est vraiment en... On a vraiment ce truc de... on est très vite... En fait, on est intensément hypé par des trucs. Genre vraiment, quand il y a un truc qui nous hype, on va à fond dedans, mais vraiment à fond. Et... 2 mois après, on est en mode genre...
Vous êtes pareil, quoi.
Et ouais, là-dessus, on est un peu pareil. Mais en vrai, on reste quand même rigoureux, chacun dans notre façon et tout. Et le podcast, on le tient. C'est juste qu'en fait, là, c'est galère de faire un podcast en confinement, sur Twitch ou Skype ou un truc comme ça. Ça ne marche pas de ouf.
Ouais, non.
Mais tu vois, on a quand même fait 2 mois où on a fait du Twitch tous les jours. On est sur Twitch tous les jours, 2 fois par jour, sur Topito.
Est-ce que tu as aussi continué tes podcasts puisque tu es au nom du pire?
Ouais.
Et tu vas continuer après le confinement, tu vas reprendre?
Ouais, si Benoît est chaud, grave, carrément. Ça, c'est un podcast qu'on a vraiment fait à deux. Donc, et moi, je tiens à ce que pareil, ce soit un peu une teuf, où genre les gens qui viennent, ils viennent, nous, on paye le mousse, les bières, ouais. On se pose, on papote, on délire un peu en buvant des coups. Et voilà. Mais pour ça, ça demande d'être dans le même endroit physiquement.
Bien sûr.
Et pour l'instant, c'est compliqué de faire venir des gens.
Mais est-ce que la radio, ça te manque maintenant? Maintenant que c'est... Là, ça fait déjà 3 ans que t'es chez Topito, tu continues les podcasts, mais c'est t'es plus au cœur de ce métier-là. Non, est-ce que ça te manque, la radio, un peu?
Ouais, un peu.
Radio, vraiment.
Ouais. Ouais. Mais la radio qui manque maintenant n'est pas la radio que je voulais faire il y a 10 ans. C'est-à-dire que là, la radio qui manque, la radio que j'ai trop envie de faire, c'est la BBC, quoi. C'est-à-dire vraiment, tu passes des musiques à longueur de journée, tu racontes des histoires et tout. Et j'aimerais trop faire ça. Ça, c'est vraiment mon délire. Alors, j'aime pas les matinales. Mais là, mon rêve, et je pense que ça va aller de plus en plus vers ça, c'est d'avoir une émission à 23h, où tu vois, des gens, ils s'endorment, toi, tu mets de la zik un peu. Bon, sauf qu'en fait, personne n'écoute la radio à 23h, c'est débile. Mais et c'est pour ça que Twitch, c'est trop bien. Twitch te permet de faire ça. Twitch te permet de parler avec des gens le soir, tard.
Je rappelle qu'on n'est pas sponsorisé pour Twitch.
Non, on n'est pas sponsorisé. évidemment pas. Mais n'empêche que c'est trop bien, tu vois, le fait que tu puisses avoir des moments... où tu parles à des gens et c'est cool. Moi, Twitch, j'ai encore ce réflexe de trop vouloir trouver des concepts, trop vouloir chercher des trucs qui font que c'est normal que je sois sur Twitch. Je pense qu'il y a un petit côté syndrome encore de « je suis pas chez moi, faut que je me fasse mes preuves ».
Alors que ton fil rouge, depuis le départ, qu'on parle dans ce podcast-là, depuis le départ, là, ton fil rouge, c'est simplement de parler aux gens, en fait.
Oui, complètement, c'est clair, mais... Je pense pas que pour les gens, tu dises que ce soit assez fort. Parce que parler aux gens, c'est cool. Mais je peux aussi me mettre sur une caisse en bois à Place de la Bastille et parler. Je suis pas sûr que ce soit pertinent, tu vois.
Je te jure que
merci beaucoup. Merci, je suis rassuré. Non, parler aux gens, c'est une chose. Mais en quoi est-ce que ça vaut le coup? Moi, je suis très friand de tous les discours se valent pas. Et au bout d'un moment, c'est pas parce que t'as la liberté d'expression que t'es obligé de dire tout et n'importe quoi.
C'est vrai, c'est très vrai.
Chose que je ne dis pas par mépris, mais parce que je me rappelle de mon blog et je me dis...
C'est l'expérience.
Personne n'avait demandé quoi que ce soit pour mon blog et au final, ça m'a fait avoir des comportements que je ne suis pas très fier d'avoir eu et des textes que je ne suis pas fier d'avoir écrits. Et donc voilà, là, comment tu fais pour que ce soit valable, comment tu fais pour que ça vaille le coup et, c'est des vraies questions.
Et tu as d'autres idées en tête, là? De concepts, d'émissions.
Ouais, 1000.
Parce que c'est vrai, et c'est ce que Sophie a annoté sur mon Google Doc, tu vois, on n'est pas sponsorisé par Google. En fait, c'était un peu précurseur quand même des podcasts. C'est-à-dire que les podcasts, ça existe depuis un petit bout de temps.
Ouais.
Mais en France, il y a eu aussi en Europe, un peu partout, il y a quand même eu un boom il y a 3-4 ans, 4-5 ans. Mais toi, t'es un peu précurseur déjà. Donc, si t'as une idée maintenant, on peut s'arranger avec Sophie et on dépose un brevet et comme ça, on se fait plein de thunes.
Non, en vrai, je suis pas précurseur des podcasts. Je vois pas mal de gens qui me disent ça parce que je pense que j'étais un des premiers à faire des podcasts filmés. Mais en vrai, les podcasts existent depuis 2005.
Bien sûr.
Et c'était méga niche.
Mais t'es précurseur de ce boom, en fait. T'as pris le train en marche alors qu'il était juste en train d'accélérer en France.
Ah oui, ouais. J'ai pris le train en marche, mais je pense que je suis pas resté dedans très longtemps. Mmh. C'est-à-dire que je suis pas rentré dans la logique du truc et je m'en suis un peu distancié parce qu'en fait, ça m'intéressait. Enfin, ça me correspondait plus à ce que j'avais envie de faire. Et puis, j'avais pas assez de thunes. Donc, j'aime bien. Alors, j'adore l'argent. C'est un truc que vraiment j'affectionne beaucoup. Et le podcast n'était que peu compatible avec ça. Mais aussi parce que j'ai mal géré mes affaires. Je sais qu'il y a une année où j'étais freelance. Et avec le recul, en fait, tu ne fais ton bilan qu'avec le recul. Mais j'ai pris plein de mauvaises décisions à ce moment-là. Qui, si j'en avais pris d'autres, m'auraient probablement fait prendre une autre trajectoire. Mais si j'avais pris d'autres décisions, je ne serais peut-être pas arrivé chez Topito. Et je pense que si je n'étais pas allé chez Topito, je n'aurais pas aujourd'hui ce recul sur ce que je faisais à l'époque où je me dis « Ah, j'ai vraiment pris des décisions de merde, donc c'est nul. »
C'est l'effet papillon.
Exactement. Donc là, je me dis, en fait, j'ai appris à être à Topito et gérer des communautés de 6 millions de gens. Tu fais genre, t'apprends des trucs, quoi. Et voilà.
Et alors, ça va faire 13 entretiens d'embauche, c'est ce que je veux dire, mais tu te verrais où dans 5 ans? Parce que toi qui fourmille d'idées, qui a toujours plein de trucs, et comme tu dis, t'as peut-être envie de retourner à la radio, qu'est-ce que tu te vois faire en court et moyen terme, quoi?
Alors, en vrai, malheureusement, je pense que dans 5 ans, je ne serai plus à Topito. Et je ne dis pas ça parce que je veux me barrer maintenant. Je dis ça parce que j'ai 32 ans. Dans 5 ans, j'en ai 37. Enfin, j'ai 31 ans, mais j'en ai 36 dans 5 ans. Topito, c'est un média qui s'adresse aux étudiants, aux jeunes actifs, aux gens qui ont 26, 27 ans max. Et au bout d'un moment, je pense que je serai un peu plus en phase avec ces problématiques-là. Je peux être inventif tant que je veux. Et au bout d'un moment, les vannes sur le quotidien des étudiants,
c'est dur. Et peut-être que toi, t'auras envie d'autre chose aussi.
Ouais, après, nous, on a l'avantage à Topito d'avoir un cadre où vraiment, on réinvente notre métier tout le temps, quoi. Il y a des fondamentaux qui bougent pas, mais si on a envie de tester quelque chose, on peut le faire. On a une flexibilité créative qui est assez dingue et que je pense, je risque de n'avoir quasiment nulle part ailleurs. Je pense qu'on est dans une des boîtes les plus agréables de France en ce moment. Et c'est pas sponsor, hein. Et je le dis de mon plein cœur, personne ne me met de flingue sur la tempe, mais je vois beaucoup de gens qui souvent critiquent Topito et qui s'imaginent qu'on est parfois dans des conditions de travail qui sont déplorables. Je n'ai jamais eu des conditions de travail pareilles. Et déjà, à France Bleu, je disais ça. Vraiment, j'étais dans... Enfin, c'était fou. Mais Topito, c'est mille fois mieux. Donc non. Mais dans 5 ans, moi, mon rêve, dans 5 ans, une fois que je serai trop vieux pour ces conneries, c'est voyager autour du monde... ou autour du monde, enfin autour du monde dans la limite des gestes barrières. et le matin, petite matinale sur internet, genre sur Twitch et tout. Après, un petit peu de sport le matin, tu vois. Après, j'écris l'après-midi de 14h à 18h. Petite émission le soir pour aller avec, le soir un peu tard, et puis voilà, tu vois.
Et justement, en parlant d'écriture, tu m'offres une excellente transition. On avait dit qu'on en parlerait.
Oui.
Tu sors un bouquin très bientôt.
Ouais. Absolument. Qui s'appelle « Comment j'ai tué mon ange gardien ».
Dont tu parlais notamment dans tes... C'est quelque chose qui est né sur Internet, en fait.
Ouais, complètement. Qui est né deux fois. C'est-à-dire que la première fois, ça faisait partie de mon blog de l'époque où je me disais « Hey, imagine, tu racontes ta vie, mais il y a un fantôme dans ta chambre. » Et c'était galerie parce que j'avais écrit 5 chapitres. En fait, ça prend du temps d'écrire. Ça, les gens ne savent pas trop, mais ça prend vachement de temps. Et du coup, c'était vraiment ma life, genre vraiment ma vie. C'est-à-dire que j'allais à la fac, les cours se passaient bien ou pas bien. Et c'est juste qu'après, j'en parlais aux fantômes qui étaient dans ma chambre et qui ne comprenaient rien. Et l'hilarité s'en suivait. C'est faux, je suis retombé sur les vieux chapitres. C'était pas bien. Mais bref. Et du coup, je me suis dit, putain, l'été dernier, j'ai 30 jours, le mois d'août, c'était un peu chiant. J'ai dit, je vais avoir du temps libre. Vite, un petit défi d'écriture. Et j'ai fait, on va faire un chapitre par jour. Il me fallait une idée qui était un peu sitcom-esque. Où en gros, tu dis, ok, qu'est-ce que tu peux écrire? Quel concept tu peux avoir pour être sûr d'avoir assez de matière pour écrire un chapitre par jour? Donc là, tu te dis que tu vas écrire un truc avec des personnages qui sont très définis, haut en couleur, et qui vont se mettre sur la gueule un petit peu. Un concept potentiellement hilarité s'ensuit. Et voilà, c'est né comme ça. Et les gens ont bien aimé. Et donc, ça va être édité.
Et ça sort
en septembre.
Ah, yes.
Ah, t'es l'exclu. Je l'ai pas dit à personne pour l'instant.
J'en ai exclu. Prends ça. Arthur.
J'ai pas la date exacte, mais ça sera en septembre.
Du coup, je vais finir sur la dernière question parce que j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on parle alors que ça en fait déjà 55.
Nice.
Thomas. Mais je te pose la question qu'on pose à tous nos invités dans le déclic. Si le Thomas d'avant ton déclic te voyait maintenant, qu'est-ce qu'il se dirait et qu'est-ce qu'il te dirait?
Je pense qu'il n'en croirait pas ses yeux. Je pense qu'il serait en mode genre, on peut faire ça. En fait, c'est ça le truc, tu vois, c'est qu'on parle de moteur de la création et tout. Moi, je pense qu'à chaque fois que je vois un film qui est ouf ou que je vois un livre ou une vidéo YouTube ou quelque chose qui est ouf, instantanément, je me dis, putain, on peut faire ça. Vas-y, je veux trop le faire. Et je sais qu'on est plusieurs dans ce cas-là, dans mes cercles de potes à être comme ça, donc on s'émule de ouf. Mais là, je pense que si le moi d'il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, on est en 2010, ouais. Il me voyait et me ferait genre, mais on peut faire ça? Genre, déjà, il serait halluciné de voir que j'ai la PlayStation 4 et un casque de réalité virtuelle.
Ça, c'est beau.
Il serait halluciné de voir la Switch. Ça, je pense qu'il y a un petit allu. Et surtout, il serait en mode, mais putain, c'est ouf. Parce que, enfin, il y a 10 ans, j'avais tellement moins de thunes rapport que étudiant, et moins d'assurance, et moins de. Enfin, je m'assumais moins, j'allais pas en soirée ni quoi que ce soit. J'allais pas en soirée il y a 10 ans. Je sortais pas, j'ai commencé à sortir qu'après mes études.
C'est vrai?
Ouais.
Ah putain.
Et je pense que moi maintenant ferais. Je pense que le moi de maintenant serait en panique parce qu'il verrait le chemin à parcourir pour arriver là où je suis aujourd'hui et il fait genre, oh, ça va être dur. Et en fait, il va se dire tout le long, quelle idée de merde. Voilà.
C'est bête de finir là-dessus. De finir sur quelle idée de merde, c'est dommage.
Ben non, parce que c'est ce que je le disais, c'est que c'est trop. Je sais que le moment où je me dis, oh putain, c'est vraiment une idée de merde, c'est le moment où le résultat va être encore mieux. Tu vois, là sur Twitch, j'ai une émission le mardi à minuit qui s'appelle Le Club de Minuit, que j'ai commencé la semaine dernière à l'heure où on enregistre.
Et pour le coup, on est sponsorisé par l'émission de Thomas Hercouet.
Et où en fait, c'est trois histoires que j'écris moi-même, que je mets en ondes. Donc je mets plein d'effets sonores dessus, etc. Je fais des petits visuels un peu marrants et je les lis en live. Et ben, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, à chaque fois que je le fais, je fais « Putain, c'était vraiment une idée à la con. » Mais en fait, la réception est telle que derrière, ça vaut le coup, quoi.
Et ben justement, vous mettrez absolument tous les liens pour aller retrouver Thomas Hercouet sur Internet. Donc à mon avis, la description va faire absolument 12 pages. mais on mettra tout ça pour nos auditeurs. Thomas, je te remercie beaucoup
de t'être confié
pour le déclic.
Tu sais tout maintenant.
À bientôt.
Merci
Thomas. Merci d'avoir écouté le déclic de Thomas Hercouet. Pour ne louper aucun de nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, enfin, l'appli de podcast de votre choix. N'hésitez pas également à nous mettre 5 étoiles si cela vous a plu. Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter ou LinkedIn, @18h17production. À bientôt!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.